Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine ici, je pars à la rencontre d'entrepreneurs, d'indépendantes, de freelance, de solopreneurs comme toi et comme moi qui nous rapportent dans nos conversations leurs conseils, leurs apprentissages, leurs leçons et leurs questions aussi parfois sur leur business et leur vie d'entrepreneur. Chaque épisode couvre une thématique spécifique, mais évidemment on y parle de plein d'autres choses pour t'inspirer et t'apporter des clés concrètes pour avancer. Donc installe-toi bien, prends de quoi noter et on se plonge ensemble dans l'épisode du jour. Merci pour ton écoute et on se retrouve à la fin. Dans cet épisode, mon intention, c'est qu'on prenne ensemble un peu de recul, pas tant sur la partie purement opérationnelle, stratégique, gestion de nos entreprises, mais sur ce que vit notre corps et ce que vit notre esprit dans cette aventure, qui est intense et qui nous demande beaucoup de ressources. Et donc pour ça, aujourd'hui, on va parler de la ressource la plus importante que nous possédons tous et toutes, qui est notre santé. Et pour ça, je suis accompagné de Marie Le Troadec. Coucou Marie.
Salut Thomas.
Bienvenue, content d'avoir cette conversation ensemble. Et
moi aussi.
Bon, on va parler de ce que tu fais après, mais j'aime bien toujours commencer ces conversations plutôt par une seule et même question pour situer comment tu en arrives là. Et cette question, c'est comment, mais surtout pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante?
Cette question, je la trouve marrante pour moi parce que quand j'ai quitté mon boulot salarial il y a 3 ans, j'étais pas du tout dans l'optique de devenir freelance, j'étais surtout dans l'optique de devenir naturopathe. Et du coup, je me suis absolument pas posé les questions de comment je dois monter mon entreprise, l'URSSAF, la micro-entreprise. Enfin, pour moi, j'allais juste être naturopathe, recevoir des clients, des clientes et vivre ma petite vie, mais je me suis pas du tout mis dans l'optique de que je vais être indépendante, freelance, que je j'aurai pas de contrat avec une entreprise, j'aurai pas quelqu'un au-dessus de moi, etc. Et j'avais déjà l'aspect un peu parce qu'avec mon CDI, j'étais aussi prof de yoga à côté, mais je donnais des cours en privé. Et c'est vrai que comme j'avais mon contrat salaire, j'étais pas du tout à me demander qu'est-ce que je fais pour mieux me faire connaître, etc. En fait, c'était un peu du bouche à oreille, et comme c'était pas mes revenus principaux, c'était pas un stress.
Donc t'es venu plus pour le fond de ce que tu voulais faire, et il se trouve que la manière dont c'est fait la majorité du temps, c'est d'être à ce compte, c'est ça?
Ouais, exactement. Moi, dans ma tête, j'allais devenir naturopathe, j'allais avoir un cabinet. Et vraiment, très naïvement, je me disais, j'aurais aucun problème pour avoir des clients, ça va se faire tout seul. Enfin, vraiment, en finissant, mais même pendant toutes mes études et quand j'ai fini mes études de naturo, j'ai tout de suite trouvé un cabinet. C'était vraiment important pour moi que je m'installe et que j'ai un endroit pour recevoir des gens. Et je me suis dit, ah bah non, non, moi, je vais être bookée tout de suite. Mais la réalité a été autre.
Oui, je crois qu'on se rend pas forcément compte avant de démarrer tout ce qui se passe après.
Ouais, et puis je me dis heureusement qu'on sait pas. Parce que bon, il y a des moments trop bien, il y a des moments difficiles, et je pense que si j'avais su un peu en avance que ça allait être un peu plus difficile que ce que j'imaginais, je suis pas sûre que je me serais lancée aussi avec autant de spontanéité, et voire me lancer tout court en fait.
C'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a une sorte de conversation que je vois souvent dans mon milieu de personnes qui accompagnent l'entrepreneuriat, qui est il faut être hyper transparent sur tout ce qui se passe et en parler, nanana, faut pas vendre du rêve, blablabla, cette conversation-là. Et en face, il y a la conversation de mais en fait, si on dit tout, il y a plus personne qui va se lancer parce que tout le monde sera dégoûté et que parfois ça vaut le coup de vendre du fantasme pour que les gens osent faire prendre le pas. Et ensuite découvre, bah en fait c'est pas tout rose quoi.
C'est exactement ça. Et moi, autour de moi aussi, j'ai pas vraiment de gens en freelance. Et donc, je ne connaissais même pas le quotidien, en fait. Pour moi, c'était en mode, tu travailles. Bon, le truc, c'est que tu dois travailler. C'est toi qui te mets à travailler. T'as pas des obligations, entre guillemets. C'était un peu le seul truc que je savais, en mode, bon, bah, par contre, là, t'es à ton compte. Donc, c'est à toi de déclencher les trucs. Mais sinon, ouais, j'imaginais pas du tout tout ce que ça impliquait, et en fait je fais très peu mon métier finalement. Je fais beaucoup de communication, de marketing, je fais mes comptes, etc. Donc je découvre en fait plein d'autres métiers que j'avais pas forcément imaginé.
Après le marketing, la com, il me semble qu'à la base, c'est le
Oui.
monde dont tu viens.
Ouais, tout à fait. J'ai fait pendant quelques années, c'est mes études en fait, et ensuite je bossais pour un restaurant à Paris, qui était une chaîne de restaurants, et je m'occupais de toute la com, autant externe que interne. Ouais, beaucoup de communication, tout à fait.
La question que je voulais te poser, du coup, quand tu dis cette phrase-là qui, finalement, je fais très peu le métier que je voulais faire, tu disais que tu es venu à l'indépendance plus pour le métier de naturopathe qu'autre chose,
Ouais.
et que là, tu te retrouves à moins le faire et à devoir faire 25 000 autres choses qui fonctionnent pas toujours comme on
Ouais.
l'espère. Est-ce que c'est dur pour toi, ça?
C'est super dur. Là, je suis un peu dans le processus de réaliser que, en fait, je vais pas juste faire des consultations. Et j'ai l'impression, en tout cas, ce que j'ai ressenti moi quand j'étais dans mes études, donc c'était 1 an et demi pour les études de naturo, c'est que, en fait, on ne parle que de ça. On ne parle que de la consultation, que de l'accompagnement. Comme la prise en charge, comment devenir naturopathe en fait. Et c'est un peu tout. Je crois qu'on a eu une après-midi sur ouvrir sa micro-entreprise, ce que j'avais déjà fait, parce que vu que je donnais des cours de yoga, j'avais déjà ma micro en fait. Et donc du coup là, je suis en train de réaliser que vraiment en fait, je vais pas juste avoir la casquette de naturo et faire mes petites consultations et puis basta. Le reste, c'est du temps libre quoi. Et donc cette grosse charge mentale, est très présente, mais aussi il y a une frustration quand même. Parce que du coup, j'ai l'impression d'avoir peu d'espace pour vraiment me consacrer du temps à comment je veux structurer mes consultations, comment je veux ma posture de thérapeute aussi et d'accompagnante. Parce que je dois penser à poster sur Instagram, écrire une newsletter, comment je peux mieux me faire connaître, relancer les personnes avec qui j'ai déjà eu des consultations pour qu'elles parlent de moi, qu'elles me mettent un avis sur Google. Et puis voilà, régler les histoires de l'URSSAF, se rendre compte que en fait on attendait un certain salaire à la fin du mois, et ben en fait c'est pas du tout ce qu'on attendait, donc il y a les angoisses, ouais, ça va vite dans ma tête.
Ouais, je pense qu'effectivement on se rend pas compte du fait que on vient avec un métier et en fait il faut qu'on en ait 20 et qu'on
C'est
jongle
ça.
avec tout. Et
Ouais.
tu parles de charge mentale face à ça, t'as dit angoisse aussi. Est-ce qu'il y a d'autres manières dont ça s'incarne dans ton expérience, dans tes ressentis, dans ta tête, dans ton corps, cette charge?
Ouais, je pense beaucoup. Moi, je le vois dans mon corps. Il y a mon rapport à la nourriture qui a toujours été un peu compliqué, et c'est pas un hasard de finir par devenir naturopathe, ou pour certaines personnes c'est nutritionniste, diététicien, diététicienne. Et donc je pense que moi, comment je vis l'entrepreneuriat aussi, c'est il y a beaucoup de lâcher prise. Faut faire preuve de lâcher prise et de confiance. Et moi, j'ai tendance à du coup chercher le contrôle quelque part. Et du coup, c'est pour ça que je parle de nourriture, c'est que le premier réflexe que je vais avoir, c'est je vais contrôler ce que je mange, et avoir des rituels, et me dire je vais manger comme ça, et puis éviter de manger d'une autre façon. Donc beaucoup de contrôle là-dessus, pour essayer en fait de canaliser tout ce que je peux ressentir. En fait, moi, ce qui m'active beaucoup, c'est le manque de stabilité. Ça fait 1 an et demi là que je suis lancée, j'ai mon cabinet, etc. J'ai pas encore une vision globale de c'est quoi chaque mois, à quoi ça ressemble en termes de finances par exemple. Et ce côté instable, il est très difficile à gérer, et c'est ça qui va créer pour moi des angoisses, parce que naturellement je suis le genre de personne, j'ai besoin de savoir exactement où je vais, comment. Souvent je dis que mon cerveau c'est comme un arbre, il y a plein de branches, et moi j'aime savoir vers où vont chacune des branches. Et j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, c'est pas possible. En tout cas, là, avec la naturo, je suis en train de comprendre que, en fait, je peux pas tout le temps prévoir. Et il y a des mois où je vais avoir plein de consultations, c'est super. Puis le mois d'après, quasiment rien. Et je suis pas sûre de comprendre pourquoi. Donc, évidemment, le premier truc qu'on se dit, c'est moi. Je fais quelque chose de mal, ou je fais pas assez, je travaille pas assez. Donc il y a tout la petite narrative qui se met en route pour essayer de c'est en fait c'est l'angoisse qui crée ça, et de trouver une raison pourquoi.
Ah, c'est intéressant, c'est enfin, t'as parlé là de pas différentes incarnations de comment ça se manifeste pour toi, la difficulté et le stress d'être à son compte, genre la petite voix dans la tête. Et tu parlais aussi de dans la nourriture, le fait que toi ça te met dans l'hyper contrôle. Et c'est intéressant parce que en novembre dernier, moi j'ai traversé une phase très stressante aussi, et où ça s'est incarné pour la première fois de ma vie dans mon rapport à la nourriture. En tout cas, de façon visible. Je pense qu'il y a toujours eu un truc sur mon rapport à la nourriture, mais là, c'était très visible pour le coup. Et c'était à l'inverse. C'était pas l'hyper contrôle. C'était l'inverse total, où en fait, je me suis mis à manger, mais beaucoup trop, à mettre toutes mes émotions là-dedans. Dès que j'avais une stimulation externe, genre visuelle, ou passer devant une boulangerie, je ressentais la faim. Et je trouve ça intéressant que du coup, c'est presque, en tout cas, dans la manière dont on le verbalise, l'exact opposé de ce que toi, moi, le stress, ça me met dans l'hyper-contrôle de la bouffe. Moi, le stress, ça m'a mis dans l'hyper-incontrôle. J'ai perdu les pédales, quoi. Comment t'expliques ça? Où est-ce que tu l'expliques?
Je pense que déjà c'est hyper intéressant de se rendre compte qu'en fait on a tous et toutes une façon différente de gérer nos émotions, notre stress, notre angoisse, ce qui se passe de l'extérieur et comment à l'intérieur on va le vivre. Donc comme tu l'as dit, moi c'est plutôt je vais essayer de contrôler, et toi tu vas plutôt te dire vas-y non, je m'en fous, j'ai besoin de me remplir,
Après, pour le coup, j'ai pas l'impression que je le gérais. J'ai l'impression que c'était vraiment une vague qui m'a
submergé,
qui a pris le dessus et que j'avais aucun contrôle.
Ok. Ouais, je sais pas si on peut vraiment expliquer. Je pense que c'est juste important de redire à quel point on est vraiment différent. Et c'est surtout comment, plus jeune, on a pu dealer avec ses émotions, en fait. Ça se répercute à l'âge adulte. Parce que maintenant on est des adultes entre guillemets et du coup en fait c'est des parts qui vont s'activer à l'intérieur et donc on va se dire bah vas-y là le moyen que j'ai de trouver du contrôle bah c'est justement et j'entends que tu me dis que t'as l'impression justement de pas avoir le contrôle mais je pense que c'est une façon aussi tu vois c'est tellement fort parfois ce qu'on ressent qu'on a besoin d'un mécanisme de défense quoi de
ouais.
En fait notre système nerveux à un moment il a un bug quoi et c'est trop et on a besoin de mettre notre attention ailleurs
ouais
et je pense que ouais on est vraiment très différents souvent on dit dans le cliché moi quand je suis stressée je peux manger sans m'arrêter et justement une autre personne va dire bah moi quand je suis stressée j'ai plus d'appétit j'ai plus rien
Ouais.
Je pense que c'est c'est vraiment des années et des années de comment j'ai géré le stress et comment ça se répercute aujourd'hui.
Ouais, ça parle de notre histoire personnelle, de nos traumas personnels de nos enfances, enfin des trucs difficiles.
À fond.
Et moi, je le vois. Là, c'était sur la nourriture, mais globalement, quand je suis face à trop d'intensité, j'ai souvent des lieux de fuite. Et un autre exemple qui me vient, c'est par exemple quand il y a trop de stimulation sociale dans mon travail qui fait que, bah voilà,
ouais.
avec ce podcast, mon contenu, je suis parfois au contact de centaines de personnes en une journée, quoi. Et il y a des fois où c'est tellement trop que du coup, je suis obligé d'aller à d'autres endroits où ça me prend tout mon espace. Et du coup, je ne peux plus être en interaction sociale. Et c'est parfois des comportements assez addictifs, mais moi, des fois, ça se manifeste dans les jeux vidéo. Ou quand j'ai des phases beaucoup trop intenses, par ailleurs, qui génèrent du stress.
Ouais.
J'ai besoin de me couper du monde réel, entre guillemets, et m'immerger dans un monde qui n'existe pas, et où j'ai pas ces problèmes-là. Et du coup, je trouve que c'est semblable avec ce qui s'est passé en novembre pour moi sur la nourriture. C'est qu'en fait, je suis allé dans du extrême, dans le trop, pour taire l'autre endroit où il y avait de la souffrance et du stress.
Ouais, il y a certainement eu, en fait, d'autres signaux de ton corps qui t'a montré que ça allait pas, que t'étais stressé, etc. Et en fait, que toi ou une autre partie de toi a décidé d'ignorer, en fait, pour aller jusqu'aux extrêmes. Parce qu'en fait, avant qu'on arrive à ces extrêmes, on passe par différentes phases. Ça peut arriver, mais dans la plupart des cas, on passe pas de 0 à 8000. On passe par différentes étapes qu'on décide consciemment ou inconsciemment d'ignorer.
Ouais.
Et après, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose à un moment, on a besoin de couper. Et en fait, c'est OK.
Ouais.
C'est pas grave de se dire, bah, vas-y, là, j'ai parlé à 80 personnes aujourd'hui. Si j'ai envie de juste parler à mes jeux vidéo pendant 2 jours, moi, je trouve ça normal, tu vois. C'est aussi une façon de récupérer. Et c'est en fait c'est normal. Enfin,
ouais.
c'est pas grave.
Il y a deux choses dans ce que tu dis qui en fait je crois parlent de notre relation à nous-mêmes et de notre connaissance et acceptation de nous-mêmes. Et je sais que c'est un truc que tu défends beaucoup aussi dans ta manière de pratiquer la naturopathie, enfin les accompagnements que tu proposes pour la santé des gens, qui est de dire que c'est un outil de connaissance de soi aussi et qu'en fait mieux on se découvre et on observe notre réaction au stress, par exemple, qui est ce dont on parlait là, bah mieux on sait comment le prendre en compte, le gérer, et que effectivement ça peut aller de simplement « Ah tiens, je suis en train de prendre conscience que je suis au niveau 10, pas au niveau 8000. »
C'est ça. «
Ok, bah comment je fais pour apaiser le truc ?» Ou « Ah waouh, là je suis au niveau 8000.
»
Bon bah ok, je vais prendre soin de moi et ça va prendre 2 jours où j'ai besoin de totalement couper. Mais en fait, je sais que j'ai besoin de ça et que après je reviens dans le game quoi.
Oui, c'est ça. Et en fait, c'est pas grave. Et les rythmes qu'on nous a imposés depuis qu'on est tout petit, rien qu'avec l'école, En fait, on n'est pas, on est, c'est pas normal entre guillemets. En fait, il y a des périodes, oui, on a plein d'énergie, on peut gérer, voilà, faire du 9h, 18h tous les jours, machin, sans se poser de questions. Et en fait, il y a des périodes où c'est pas possible. Et voilà, je trouve qu'il y a, quand il y a ces moments qui arrivent où on a besoin de, bah, de se renfermer et de d'être un peu seul avec soi-même. Moi, je dis souvent à mes clients, clientes, en fait, remerciez-vous, quoi. Enfin, c'est une super façon de vous protéger et de vous réparer. Et je trouve que c'est hyper important à dire, mais que, en effet, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à cet extrême pour se dire. En fait, c'est comme quand on a mal au dos, quand on a des douleurs chroniques au dos. Je parle de moi. Avant que je sois vraiment blessée et que j'aille chez l'ostéo, en fait, j'ai plein de signes. Avant que j'ai vraiment cette barre dans le bas du dos qui m'empêche de sortir du lit. En fait, j'ai ignoré une douleur à l'omoplate, à la hanche droite, mais en fait, ça fait déjà quelques semaines que c'est là. Et au lieu d'attendre, je peux me dire, bah en fait, là, il faut que je fasse soit un peu plus de mouvement, il faut que bah, justement, j'aille voir l'ostéo plus tôt, sans en fait avoir super mal.
Mais j'ai l'impression que c'est le genre de trucs qui sont difficiles à observer. Dans le sens où
Grave.
on se rend compte que trop tard, je pense au stress par exemple.
Oui.
Et je pense que toutes les personnes qui écoutent ce podcast ont un jour ressenti du stress par rapport à leur entreprise et leur activité, ou même du stress prévisionnel de
À
leur
fond.
future activité en mode je vais me lancer, mais putain, ça me fait déjà peur.
Ouais.
Et je pense que, tu vois, il y a des niveaux où tu te rends compte que trop tard, ok, là, c'était trop. Et encore une fois, je pense que c'est une question de conscience de soi et de
À
connaissance de
fond.
soi que, bah, une fois que ça arrive, ah tiens, c'était quoi, comme tu dis, les signes avant-coureurs. Et que, et après, j'ai l'impression que c'est comme avec tout dans la vie, jusqu'à ce qu'on mette vraiment notre conscience et qu'on investisse sur ce domaine de vie, on se rend pas forcément compte des mécanismes qui sont en place, quoi.
Ouais, exactement. Et il y a aussi moi, ce que j'ai beaucoup observé, et avec moi hein, et d'autres personnes, c'est qu'on aime bien se raconter l'histoire. Je peux tout encaisser, je peux tenir jusqu'au bout, et puis on se met un peu une deadline en disant bah il y a les vacances qui arrivent, donc je tiens jusqu'aux vacances, etc. Jusqu'au moment où en fait bah non, on peut plus tenir, et c'est là vraiment où on se blesse. Là où on tombe vraiment malade. Et moi, ce que j'essaye vraiment de faire avec mon travail, c'est de, bah ouais, c'est ce que tu disais, mettre de la conscience là-dedans, que même ce petit signe qui te paraît anodin, bah en fait, c'est déjà le début
De quelque
de quelque
chose.
chose qui pourrait arriver, qui pourrait devenir un peu plus grave. Et rien que ça, de prendre conscience de ces petites choses-là, ça peut vraiment faire la différence. Ouais.
Et c'est un challenge, je pense, parce que avant je disais connaissance de soi et acceptation de soi. Et je pense que quelque chose que tu soulevais là, c'est attendre jusqu'aux vacances et ainsi de suite. En fait, c'est le fait de se dire, il y a une norme
Grave.
qui est, par exemple, travailler de 9h à 18h. Et si je déroge à cette norme, je suis moins bien qu'eux. Et je pense que c'est cette histoire-là, le je suis moins bien qu'eux, qui nous fait avoir une sorte de biais de raisonnement où on tait les signaux. Et ça, je trouve, c'est un vrai défi et je suis curieux de peut-être ce que tu racontes à la personne avec qui tu travailles ou que tu suis. Comment? Parce que mettre plus de conscience sur les signes de notre stress ou de nos problèmes de santé ou nos problèmes d'agitation mentale, etc. Je pense que ça commence par réussir à se dire, mais en fait, c'est ok si je ne me conforme pas à la norme
C'est
de
ça.
travailler tant de jours ou à telle intensité.
Ouais, on a tous toutes des rythmes différents. On a vraiment des cerveaux différents. Et il y a des personnes qui sont vraiment capables de bosser beaucoup sur des périodes très courtes, et pourquoi pas se reposer après. Je vais parler de moi parce que c'est le plus simple, mais moi, je sais que je prends vraiment du temps à faire les choses. Et quand j'étais petite et quand j'ai grandi, et encore maintenant, parfois je me dis, ah, je suis vraiment flemmarde, quoi. Je procrastine, je me mets pas à travailler. Et en fait, je réalise vraiment que c'est pas que je procrastine ou que je suis flemmarde, mais en fait, j'ai besoin de temps. J'ai besoin que les choses soient lentes. Et en fait, si le plus je vais essayer de combattre ça, le plus bah, je vais ressentir de la culpabilité, de la frustration, de la colère, de la tristesse. Et en fait, c'est ce moment-là où mes émotions deviennent super hautes, que j'arrive pas à gérer. Donc, j'ai besoin d'aller contrôler des trucs.
Parce c'est une sorte de cercle vicieux qui se déclenche.
Complètement, et une espèce de dissociation, en fait. Et parce que je respecte pas mes rythmes physiologiques.
Comment tu fais pour prendre conscience de ça? Tu vois, j'imagine il y a des gens qui nous écoutent qui se disent mais moi aussi ça me parle trop, c'est moi. Comment tu fais pour mettre de la conscience là-dessus et mieux comprendre et ensuite t'adapter, surtout quand t'es pas dans la norme entre guillemets.
Moi je suis tombée malade, ça aide bien. J'ai une maladie auto-immune. Et
Tu veux dire, quand tu dis ça aide bien, c'est pour prendre conscience d'eux?
C'est ça que je voulais dire. c'était devant ma figure.
Oui,
donc au bout d'un moment, je peux plus ignorer. Et moi, ça se manifestait beaucoup au début par, j'ai eu de l'acné d'adulte, très sévère. Donc c'était genre des kystes, donc même pas les petits boutons blancs, etc. C'est vraiment sous la peau, c'est très douloureux. Et c'est vraiment là, je pouvais plus l'ignorer que ça allait pas. Et en fait, quand j'ai commencé mon travail avec la Naturo, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de choses que j'avais banalisées, mais qui étaient absolument pas normales. Mal au ventre, le ventre qui gonfle, un cycle menstruel pas régulier, et plein de petites choses, en fait, où en plus, le discours en face du corps médical, c'était « tout le monde a ça ». Il y a pas vraiment de raison, c'est juste comme ça. Voilà, il y a des médicaments quand on a besoin, et puis sinon, juste apprends à vivre avec ça. Et ça, j'ai vraiment, j'ai refusé. Je trouvais ça pas correct. Et aussi le côté infantilisation, pour moi, c'était pas possible. Ensuite j'ai traversé mes études de naturo, etc. Et il y a encore des choses que j'ignorais dans ma santé. Et je pense que le meilleur moyen pour prendre conscience de ça, c'est déjà de se poser, en fait, juste d'avoir la conscience entre guillemets de pouvoir se poser la question en mode mais est-ce que c'est vraiment normal que à chaque fois que je mange un truc, je mange des fruits par exemple, j'ai le ventre qui gonfle. Et c'est aussi, on vit avec certaines personnes, en tout cas j'en ai vu dans mon cabinet. Qui vivent avec des douleurs chroniques et qui se rendent même pas compte, en fait, l'impact que ça peut avoir sur leur vie, qu'ils l'ont tellement intégré à leur quotidien. Et je pense qu'en parler, et même si c'est avec ses amis ou dans un cercle où on se sent bien, et ça permet de se rendre compte, genre, ah, toi aussi, t'as ça. Ou, ah, t'as pas ça, toi, c'est bizarre. Parce qu'il y a plein de choses qu'on sait pas, qui sont pas normales.
Ce que tu dis sur... Le traitement par les médicaments qui est ce qu'on reçoit classiquement et ce discours là de prendre des médicaments et voilà, je trouve que ça va à l'encontre de ce qu'on disait juste avant, de mettre de la conscience dessus. C'est genre il y a un problème, faisons le disparaître, plutôt que d'être en mode ça vient d'où, est-ce que c'est normal que moi j'ai ça, est-ce que tout le monde l'a. Donc il y a deux choses que j'entends. La première, c'est comme tu dis, curiosité. Ah tiens, je remarque que à tel moment j'ai tel symptôme. Quelle est la cause, et essayer de remonter un peu l'arbre, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et la deuxième chose que j'entends, c'est pour se rendre compte de qu'est-ce qui est normal ou pas. Ça passe par en parler avec d'autres, se confronter à d'autres réalités. Même si j'ai l'impression que parfois dans notre cercle social, il peut y avoir toujours les mêmes comportements, et donc on a l'impression qu'un truc est normal alors que non. Et c'est pas facile d'en parler d'ailleurs si c'est des choses un peu intimes et tout.
À fond. Et je pense aussi il y a un vrai réveil à l'intérieur de soi. En fait, je pense qu'on se raconte beaucoup aussi qu'on peut gérer et que c'est ok de subir ça. Et du coup, on s'enferme aussi dans un truc et c'est pas aller jusqu'à « Ah, je mérite d'avoir ça ». Mais il y a presque un truc... en fait, c'est comme ça et ça m'appartient et je vais pas commencer à vouloir chercher. Et je pense qu'il y a un déclic à avoir là-dessus, en mode « En fait, j'ai le droit d'aller bien. J'ai le droit d'être en bonne santé. »
De pas devoir... gérer autour d'un problème juste parce qu'il est là, mais en fait se dire bah il existe une réalité où j'ai plus ça quoi.
Complètement. Je suis pas obligée de subir ça. Et j'ai le droit de comprendre. Surtout. C'est pas parce que j'ai pas fait 7 ans d'études, 7 ans de médecine. C'est pas parce que je suis pas médecin que j'ai pas le droit de savoir ce qui se passe dans mon corps et pourquoi il y a des symptômes qui se déclenchent. Pourquoi à des périodes je vais mieux et à des périodes ça j'ai des crises.
Ouais. Je pense que c'est un autre truc, c'est la connaissance, la conscience de soi, mais aussi là, ce que tu soulèves, c'est le savoir. C'est que quand on est face à des situations de stress intense ou que notre corps nous envoie des messages quand on traverse des choses difficiles avec nos aventures entrepreneuriales, parce qu'on va en traverser des tonnes, juste le fait de comprendre, ah d'accord, c'est ça qui se passe en fait. Ça fait tellement du bien.
Ouais, grave.
Et je repense à ma situation de novembre où en gros ce qui se passait pour moi c'était on avait une belle croissance avec la boîte et je commençais à investir de plus en plus. Et le moment où ça a commencé à vriller, c'est quand de manière régulière je dépensais plus de 10 000 euros par mois en termes de prestataires, investissements, etc. Ce qui voilà était la nouvelle marche. Et je pense que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est juste c'était tellement peu habituel que moi pour moi. Et du coup, j'étais, enfin voilà, mon système nerveux et tout ce qui définissait ma norme vrillait quoi. C'était en mode, mais attention, comme s'il y avait un bouton alerte à l'intérieur de moi et qu'il y a un petit bonhomme qui avait poussé dessus en mode, c'est le bordel, c'est pas normal, tu dépenses le salaire de ta mère tous les mois, stop. Et salaire annuel de ma mère qui travaille à mi-temps. Et je pense juste de comprendre, ah. Mon système nerveux est tellement pas habitué à ce genre de réalité qu'il a pété un câble. C'est normal, je suis un être humain, c'est pas parce que j'ai fait de la merde.
Et il a voulu te protéger, en fait.
Exactement.
C'est un système de protection. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut remercier aussi ces parts-là. Elles sont là pour te protéger. Et en tant qu'espèce, on n'aurait pas vécu jusqu'ici si on n'avait pas ce système de protection. Et il y a un truc super intéressant dans le système nerveux. On a le système nerveux autonome, respirer, les battements du cœur, la température, la digestion, tous ces trucs-là que le corps fait
sans qu'on
ait besoin de faire quoi que ce soit, qu'il le fait au quotidien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et à l'intérieur de ce système nerveux autonome, tu as le système nerveux orthosympathique et le parasympathique. L'orthosympathique, c'est justement, je suis dans l'action, je suis dans le stress, je me lève le matin, on est tous, le matin par exemple, on est tous en orthosympathique, c'est ce qui nous permet de sortir du lit. Donc, cortisol qui est sécrété, donc ce qu'on appelle l'hormone du stress, l'adrénaline, etc. Ce qui nous permet d'être là, debout, je vais me faire un café, etc. D'être dans l'action, de faire des choses, d'être dans ma journée, etc. Et on a le parasympathique. Le parasympathique, c'est le repos, la relaxation. Donc par exemple le sommeil, typiquement, la digestion, hyper important d'être dans la relaxation pour bien digérer. Quand je suis devant la télé, devant Netflix, je suis censée être en parasympathique. Il y a zéro danger, donc pas besoin d'être en hypervigilance.
Donc notre système nerveux se relâche et c'est là qu'on...
Et c'est là aussi où le corps se répare, vraiment. C'est la nuit, on est en parasympathique et c'est là où les tissus vont se réparer, les muscles aussi, on va éliminer les déchets, etc. Et notre cerveau, il est encore branché à il y a quelques milliers, millions d'années. C'est allé trop vite, là.
On est dans la savane.
On est dans la savane, exactement. Vraiment, on est dans la savane, etc. Et du coup, ça veut dire que le système nerveux ne fait pas de différence entre le stress d'aujourd'hui et le stress qu'on pouvait avoir de « je me fais courser par un lion et je suis en réel danger de mort ». Si vous êtes en train de courir pour récupérer votre train parce que vous êtes en retard, votre système nerveux, il se dit, il y a un lion qui est en train de me courser. Donc, en fait, il va mettre en place les mêmes mécanismes comme si vous étiez en danger de mort. Or, vous n'êtes pas en danger de mort, vous êtes juste... Vous allez peut-être louper votre train.
Oui.
Et je trouve que quand on prend conscience de ça et qu'on se dit, en fait, à chaque stress, j'enclenche, je dis à mon corps, on est en danger de mort, en fait, déjà, c'est super violent. Et je pense qu'on a beaucoup minimisé le stress. Ça va mieux maintenant parce qu'on en parle beaucoup, mais... On a minimisé le stress pendant des années en disant « Non, non, mais c'est juste des petits stress. » Mais le corps, il sait pas. Le système nerveux, il sait pas que c'est un petit stress.
Ouais.
Lui, il se dit « Waouh, il y a un lion, quoi. »
Mais comment on fait, du coup, pour réguler ça? Parce que dans ce que tu as dit avec les deux parties de notre système nerveux, on a besoin de ce truc de je me lève, j'y vais, ça
Ouais,
y est, je me mets à bosser.
grave.
Donc une sorte de stress positif quelque
À
part de
fond.
bah en fait, il y a des gens qui m'attendent, faut que je
Et
délivre.
c'est pour ça qu'on est en vie, ouais.
Et en même temps, on a besoin de sortir de ça, ou pas que ça devienne trop intense, j'entends qu'il y a une question d'équilibre. Comment tu fais pour réguler ça, pour pas que bah ouais, chaque mail que tu reçois, ça soit le système
Oui.
danger de mort qui se met en route.
Bah, c'est ça qui se passe et c'est pour ça que le stress est devenu un fléau de notre vie contemporaine. C'est que le corps et le système nerveux dans toute son intelligence va s'adapter. Donc,
Oui.
plus je vais être en stress, plus mon corps va se dire, ah bah, c'est la nouvelle norme.
OK.
Donc, en fait, je vais être en orthosympathique tout le temps. Donc, ça veut dire que je vais être en orthosympathique même quand je suis devant la télé, même quand je suis en train de digérer. Donc, je digère mal. J'ai du mal à m'endormir parce que, en fait, j'ai tellement obligé mon système nerveux. En fait, j'ai pris le dessus sur mon système nerveux autonome. Et je lui ai dit, là, je sais que t'es pas bien, que t'es fatigué, mais en fait, on a trop de boulot, on doit rendre ce truc. Je m'en fous qu'il soit 2 heures du mat et que ça fait 18 heures d'affilée que je bosse. Et il y a certaines personnes, du coup, qui, leur système nerveux est dérégulé. Et le parasympathique ne s'enclenche plus aussi facilement qu'avant. Donc déjà, quand on est rentré dans un truc de super adaptation, c'est comme s'il fallait réapprendre à notre système nerveux cette histoire de parasympathique qui est essentielle en fait. Et donc du coup, pour bah, soit régulariser ça ou le remettre un peu en route, il y a des trucs. En fait, faut jouer avec ce qui est là depuis des milliers d'années, c'est-à-dire par exemple notre respiration. La respiration, et ça a l'air tout bête, et aussi parce qu'on en parle vachement dans le développement personnel, en disant c'est la respiration, c'est la solution à tout. Quelque part, oui, mais il faut déjà savoir bien respirer. Mais rien, en fait, faut se dire que la respiration, c'est un peu le code de triche pour notre système nerveux. C'est-à-dire que si je me sens stressée et que je m'oblige à expirer très longtemps, forcément, j'oblige mon système nerveux à se calmer. Il n'a pas le choix. En fait, la respiration calme, pour lui, ça veut dire parasympathique. La respiration saccadée, qui va vite, je suis essoufflée ou crise de panique, etc. Pour lui, c'est de l'orthosympathique, c'est danger de mort. Mais si moi, je me force à respirer lentement, le système nerveux il va se dire, ah oui, ok, non, bah, en fait, tout va bien. Donc rien que ça, la respiration, vraiment, c'est gratuit, c'est disponible tous les jours, en permanence, utilisez-le, utilisez-la. Et il y a plein de méthodes, mais vraiment, rien que expirer longtemps.
Mais ça me fait penser à une expérience qu'on a vécue, enfin que je sais que tu as vécue aussi parce que on nous l'a proposé à la retraite de yoga où on s'était rencontrés pour la première fois. Où du coup il y avait une chercheuse en neurosciences qui était présente à la retraite de yoga parce que la thématique de la retraite c'était yoga et neurosciences. Et la proposition c'était qu'on soit branché à je ne sais plus quel outil incroyable qui mesure l'intensité de notre respiration, enfin des battements du cœur.
Battement du cœur, ouais.
Et que l'objectif, et du coup, on devait réussir à respirer d'une manière qui nous fait monter en parasympathique, ou non, l'autre, orthosympathique,
Orthosympathique.
puis respirer d'une manière qui nous fait redescendre en parasympathique.
C'est ça.
Et ce qu'elle expliquait, c'était que c'était hyper important d'avoir la bonne variation de notre rythme cardiaque et notre manière de respirer pour aller dans les deux mondes. Parce que, bah, pour se choper le bus ou pour se bouger le cul pour, je sais pas, finir la proposition commerciale, on a besoin d'aller dans ce monde-là
C'est
de
ça.
orthosympathique. Mais si on y reste, c'est là où on vit du stress chronique qui a tous les méfaits sur notre corps. Mais de la même manière, si on est que dans le parasympathique, moi je me souviens d'un truc qui m'avait marqué, elle m'avait dit en fait les gens qui sont que là et qui ont par exemple des respirations très lentes, toujours très lentes, ont plus de tendance à rentrer dans des états dépressifs parce qu'ils savent plus aller chercher l'orthosympathique.
Ouais, et puis il y a aussi une histoire d'hormones qui du coup se sécrètent plus correctement, qui fait qu'on va réussir à démarrer. Et peut-être il y a des carences quelque part qui fait que neurotransmetteurs.
Qui est le corps qui s'adapte encore une fois, peut-être,
Ouais,
non?
complètement. En fait, au bout d'un moment, le corps il se dit bon bah tu m'écoutes pas, ciao. Moi je me mets en mode survie. Et donc je fais le minimum, mais je peux plus aller chercher dans mes ressources en fait. Et il a tellement essayé de nous alerter
Oui.
Et c'est là où vraiment c'est danger, quoi.
Ouais. Du coup, moi, ce que je retiens de ça, c'est que, comme tu dis, respirer, c'est presque une compétence à laquelle il faut s'entraîner
À fond.
et qu'on peut s'entraîner à faire varier dans le sens de
Ouais.
ce sur quoi,
Ouais.
de ce dont on a besoin, quoi.
Complètement.
Et je pense que pour la plupart des gens qui sont là, c'est plutôt aller du sens de je suis trop dans le stress à redescendre que l'inverse. Enfin, j'avais tiré cette conclusion cliché des entrepreneurs stressés. Mais je pense que c'est pas très loin de la réalité.
Ouais, je pense que on prend tellement des habitudes aussi. Et encore une fois, je pense qu'on se raconte cette histoire de il faut, il faut, il faut.
Ouais.
Je dois y aller à fond parce que sinon j'y vais pas vraiment. Donc je vais mettre mon corps physique de côté et juste charbonner comme un ouf. Alors que en fait notre corps c'est notre meilleur allié. C'est notre maison. Il n'y a pas un autre endroit où on va habiter en fait.
Ouais.
Et c'est là où je disais tout à l'heure, moi j'ai un rythme, je suis lente. Et donc j'apprends à vraiment valoriser ce mot parce que quand je respecte ça, que je vais plus lentement et que les choses mettent du temps à se mettre en place, une fois qu'elles sont mises en place, c'est bon en fait. J'ai plus, je sais que c'est solide, je peux compter dessus.
Ouais.
Et donc du coup, c'est un peu aller à contre-courant de tout ce qu'on nous a raconté. Mais je pense que dès qu'on est dans l'entrepreneuriat, de toute façon, on a décidé d'aller en contre-temps, quoi.
Enfin ouais, c'est un
À
premier
contre-temps.
pas de sortir des schémas
Ouais,
normatifs, mais
complètement.
même là-dedans, il y en a plein d'autres qui
Mais
émergent en fait.
oui,
Peu importe
carrément. Et
la...
on peut tomber
Ouais.
dans d'autres travers.
Du coup, tu dirais que c'est quoi des pratiques? Tu vois, on a parlé de la respiration qui, à mon sens, est une pratique qu'on peut intégrer à nos journées, à nos semaines.
Ouais.
Ce serait quoi d'autres pratiques pour toi? Et je suis curieux de... Il y a deux choses que j'entends qu'il faut réussir à faire. C'est trouver et s'aligner avec son propre rythme,
Ouais.
sa propre réalité face à le
À
rythme
fond.
imposé. Donc ça, c'est un truc. Je suis curieux de quelle pratique pour ça. Et l'autre, c'est quelle pratique pour... faire varier les états de notre système nerveux qui sont importants et ne être donc sortir du stress pour revenir dans le repos et la réparation. Ou peut-être si on a besoin, là c'est une phase un peu dynamique, j'ai besoin d'y aller un peu,
Ouais.
sortir de cette phase entre guillemets plus passive pour aller dans la phase active de ok, ça y est, je me bouge le cul, quoi.
Ouais. Je pense déjà, il y a le, on est beaucoup trop sédentaire. On bouge pas du tout assez notre corps. Alors qu'on n'est vraiment pas fait pour être sédentaire, et même à l'intérieur de notre corps, nos cellules qui voyagent partout, notre respiration et la circulation sanguine, etc. Donc quand on est statique, il y a aussi le corps du coup qui bouge beaucoup moins. Or, les tissus ont besoin de bouger, les muscles, et ça aussi c'est un super moyen d'aller accéder à nos systèmes nerveux. Quand on se met à bouger, on relâche forcément. Il y a quelque chose qu'on met un peu de côté et on peut se remettre dans le corps physique. On a à peu près 6000 pensées par jour. Donc heureusement, on les processe pas tous, toutes. Le cerveau fait le tri, pareil, histoire de système nerveux autonome. Mais ça reste épuisant quand même.
Ouais.
Et les pensées, ça se passe ju pas juste au niveau de la tête, quoi, en haut. Ça se passe dans le corps aussi, donc physiquement c'est aussi épuisant. Je pense que ramener du mouvement, il y a un truc, on n'en parle pas assez vraiment. Et même moi, même si j'ai ma conscience dessus, je pense que je ne fais pas assez de mouvement. On est vraiment censé bouger
Ouais.
régulièrement, quoi.
Et je pense que ça, c'est clairement quelque chose sur lequel beaucoup de freelances et d'indépendants, comme nous, comme les gens qui nous écoutent, peuvent faire
Bah
encore
ouais,
des
on est devant
progrès.
notre ordi, mais bien
Ouais,
sûr.
voilà, on est devant notre ordi, on est chez nous. Moi, j'ai la chance d'avoir un bureau à la maison. C'est une chance et en même temps une responsabilité de me dire, bah, je vais pas juste faire chambre, bureau, bureau, chambre.
Ouais.
Faut que je sors plus pour prendre le métro et bouger d'un endroit à l'autre et peut-être
Il y
aller
a
au
ça
taf
aussi.
marcher en marchant, quoi. Comment on trouve sa pratique de mouvement alors?
Ouais, j'allais dire aussi, il y a un truc super important, c'est que parfois je pense que nous, les êtres humains, on aime beaucoup quand on nous donne un plan et
Oui.
qu'on nous dit fais un morning ritual
Oui.
et un rituel le matin et tu vas vivre ta meilleure vie et tu n'auras plus jamais de soucis. Et
il y a des gens qui aiment pas ça, ils sont en mode c'est du mais c'est du bullshit.
Ouais, je sais pas si c'est du bullshit. Je pense que pour certaines personnes, c'est essentiel, ça marche trop bien pour eux, ils ont besoin de ce cadre-là. Moi, j'ai besoin d'un peu de chaos dans ma vie. Et pareil, j'ai appris à apprécier ça. Et donc pendant 3 mois, ouais, je vais être à fond, je vais faire du sport tous les matins, je vais me préparer un bon petit déj, machin, machin, machin. Et puis, au bout de 3 mois, je vais être là, mais en fait, ça me saoule et je vais plus du tout faire ça. Et peut-être que je vais voir une différence en effet. Bon, bah, peut-être, ouais, ce truc-là, de faire ça, ça me faisait du bien, peut-être pas. Mais tout ça pour dire que c'est hyper important de faire ses propres expériences. On est encore une fois, tous différents. Et donc, hyper important, de se dire bah peut-être que là j'ai envie de faire ça et la semaine d'après en fait non ça me saoule je sais plus ce que tu m'avais dit.
Ouais, la question c'était sur les pratiques, mais j'aime beaucoup ce que tu dis parce que je pense, et moi le premier hein, on a envie d'avoir ces cadres toujours les mêmes, structurés, on revient toujours sur la même chose. Genre moi, tellement de fois, j'ai fait cet exercice de c'est quoi ma semaine idéale, et c'est un exercice que je fais faire à mes clientes aussi, ouais. Mes clients,
ouais.
Pour trouver le cadre dans lequel tu veux évoluer, mais ce que je m'évertue à répéter, et ce que tu répètes là aussi, c'est faire cet exercice est une chose, l'incarner en est une autre, mais faut accepter que ça change avec notre vie, quoi. Tous les jours, on est un être humain différent. Et donc c'est normal que nos pratiques changent en fait, et que bah peut-être pendant 3 mois comme tu dis, je vais être en mode bah je vais faire du running tous les jours et c'est tellement bien, ouais. Et pourquoi j'ai jamais fait ça avant.
Grave.
Et au bout de 3 mois on est en mode ouais non en fait ça me saoule, vas-y je me mets au pilates quoi.
C'est trop ça, et je pense que zéro culpabilité à vouloir changer d'activité. Moi j'aime bien du coup me relier à l'idée que dans la nature tout change en permanence, et que nous aussi on a oublié ça aussi, on fait partie de la nature. On est des êtres changeants, notre apparence, notre corps, nos goûts, nos envies, tout change tout le temps. La nature aussi est trop important en fait aussi de se synchroniser à ça.
Ouais.
Et de se dire, enfin voilà, c'est tout bête, mais une fleur, elle est pas fleurie toute l'année en fait.
Ouais.
D'un moment, il faut qu'elle fane pour nourrir la terre et hop, elle va repousser
ouais.
Quelques semaines, mois plus tard, et c'est ok en fait. Et nous, on est pareil. Il y a des moments d'extraversion, je produis, je fais des trucs, etc. Et des moments, en fait, bah, là, non, stop, je ralentis, je prends des moments d'introspection. C'est hyper important, le cerveau, c'est pour ça qu'on parle de méditation aussi, qui est super à la mode, et tant mieux. on a besoin d'espace de vide.
Oui.
Parce que c'est là où le cerveau, déjà, va, apprendre et retenir. Ce qu'on a pu lire, voir, expérimenter. Et aussi, c'est l'endroit où on va avoir des idées.
Ouais.
Et des nouvelles envies vont émerger. Et ouais. On va être à l'écoute de... Bah justement, peut-être que j'ai mal au ventre. Enfin, c'est là aussi où... C'est l'endroit où notre corps va pouvoir nous parler et on va pouvoir aussi être capable de l'écouter.
Ouais, du coup, ce que j'entends... La question de base, c'était comment on trouve sa pratique. Mais ce que j'entends là, c'est du coup, il y a besoin de... être plus à l'écoute de ce qui se passe en nous, et du coup peut-être de créer de l'espace pour laisser émerger une envie ou un désir, comme par exemple bah tiens, je vois plein de gens qui font tel truc, j'ai envie de tester
à fond,
et ensuite s'autoriser à se dire bon bah voilà, allez, on va expérimenter ça en ce moment, c'est cool, et ça va peut-être changer. Et j'ai juste envie de préciser un truc sur l'exercice de mettre un cadre et de se dire à telle heure je vais faire telle chose. Ça a une utilité pour faciliter le fait de s'y mettre, je crois.
Oui.
Et que ça, c'est... Tu vois, c'est une chose de définir, c'en est une autre de le faire pour de vrai, mais l'exercice de définir quand est-ce que je vais faire quoi, bah, il a de la valeur parce que ça permet de faciliter comment je pilote ma journée. On n'est pas juste en train d'attendre le moment où... Oh, j'ai envie d'aller courir.
Oui,
oh, allez-y. Sinon, ça arrive pas trop, quoi.
Oui, c'est ça, d'être à l'écoute de la moindre pensée. Non, carrément, je pense qu'en effet, le définir, c'est super important, de l'écrire quelque part et de se dire peut-être, bon, bah voilà, pendant une semaine, j'essaye.
Ouais.
Et puis, si on se rend compte qu'en fait, bah, il y a zéro plaisir dans ce qu'on fait.
Changer. Ouais.
Mais en effet, il y a toujours besoin, ce que je disais tout à l'heure, c'est cool d'avoir un cadre. C'est cool pour certaines personnes d'avoir le cadre et autoriser un peu de chaos avec, quoi.
Ouais, je pense qu'il faut les deux.
Et exactement. C'est une question d'équilibre. Et chez certaines personnes, bah, ça va être j'ai besoin de plus de cadre, chez certaines personnes, moins. Et je pense que pareil aussi, faut se dire, bah, en fait, c'est moi et c'est OK.
Ouais. Ouais.
Je fais pas comme la dame ou le monsieur de Instagram m'a dit de faire. Bon, bah. Mm. Mais peut-être qu'il y avait un truc intéressant qui m'a marqué.
Oui.
Que je vais utiliser, mais à ma manière.
Ouais, en mode, comme on dit depuis le début, apprentissage sur soi, connaissance de soi. Ouais. En tout cas, ce que j'entends, c'est que on a besoin de mouvement.
Mm.
Pour trouver une pratique de mouvement qui nous va, faut
tester. Si, vraiment, si j'ai un truc à recommander, c'est tester et aussi de s'enlever la tête de « Ah, je suis pas sportive. » Parce qu'on a défini... très précisément ce qu'était une pratique sportive. Mm. Et je pense que n'importe quel mouvement que vous pouvez faire dans votre quotidien, c'est un mouvement physique.
Et
c'est super important.
Ouais.
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 Grave. Il n'y a pas besoin d'aller transpirer et d'être crevé à la fin. Et...
Ouais, genre marcher, quoi.
Mais grave, marcher, c'est un truc de ouf. Mm. Enfin, vraiment, c'est super. Et ça enclenche le parasympathique. C'est ce qu'on veut.
Ouais, et puis ça enclenche ce que tu disais tout à l'heure, dont on a parlé sur ce podcast dans un épisode sur la créativité. L'espace où on n'est pas activement en train de se remplir le cerveau.
Ouais.
Et où en fait, on donne de l'espace à ce que nos pensées se réorganisent entre elles. Et pouf, on a des idées comme sous la douche.
Ouais, exactement. Mm. On se lave les dents.
ce que j'avais envie qu'on explore dans cet épisode, et on a bien fait jusque maintenant, mais peut-être que tu vas rajouter quelque chose, c'était... Comment on peut mieux vivre l'intensité, le stress, la charge mentale, les empreintes sur notre corps physique aussi que l'aventure entrepreneuriale laisse.
Mmh.
Pour l'instant, j'entends connaissance de soi et de ses automatismes pour mieux en prendre soin.
Oui.
J'entends accepter qu'on va pas tous et toutes être dans la norme que tout le monde nous pousse et qu'en fait, il faut apprendre à construire sa propre norme. Que pour ça, on doit prendre soin de cette oscillation de notre système nerveux grâce à la respiration, grâce à une pratique de mouvement quotidienne, en tout cas idéalement.
Mm.
Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose à cette exploration ?
Oui, je pense que bah il y a aussi évidemment l'alimentation, sans tomber dans des travers de troubles du comportement alimentaire, mais de se rappeler que la nourriture est là pour nous nourrir. Mais autant physiquement que psychiquement, et j'ai même envie de dire spirituellement, et se rappeler que la nourriture, c'est notre carburant. C'est ça qui va nous donner de l'énergie. Et c'est ça qui va nous... y a des nutriments dedans.
Mmh.
Et j'aime beaucoup prendre cet exemple chez des personnes qui dorment pas bien. On peut imaginer qu'il y a ce qu'on appelle une carence en mélatonine. La mélatonine, c'est ce qui nous permet de s'endormir et de rester endormi surtout.
Okay.
S'il y a une carence en mélatonine, peut-être qu'il y a une carence en sérotonine. Sérotonine, c'est vraiment l'hormone qui nous fait nous sentir bien, confiance en la vie, c'est hyper important. Et la sérotonine, elle est créée grâce à un acide aminé qui s'appelle le tryptophane. Un acide aminé, donc c'est dans les protéines, et il y a 9 acides aminés essentiels qui ne sont donc pas synthétisés par le corps. Le corps ne sait pas les fabriquer. La tryptophane est un de ces acides aminés essentiels, qui se trouve donc uniquement dans la nourriture, dans les protéines.
Mmh.
Et j'aime bien remonter cette chaîne parce que ça veut dire que si, dès le départ, on ne mange pas de protéines qui contient du tryptophane, ça veut dire qu'à la fin de la chaîne, je n'aurai pas ma mélatonine, ou alors très peu, moins que ce que je pourrais avoir. Et donc, du coup, bah, je vais avoir des problèmes de sommeil.
Mmh. Et si j'ai des problèmes de sommeil, pas de parasympathique, pas de réparation.
Pas de réparation du corps, pas d'élimination des toxines. Donc, peut-être de la constipation, peut-être une digestion très lente, et donc pas d'appétit, et de la fatigue. La fatigue, ça, donc du coup, on va sur des aliments qui, normalement, ne nous donnent pas forcément envie.
Mmh.
Ça, en fait, il y a une réaction en chaîne qui est énorme.
Et du coup, qui nous garde dans la boucle vicieuse du stress, et on sait pas d'où ça vient.
Et on sait pas d'où ça vient. Et parfois, en fait, c'est des ajustements alimentaires qui suivent. Et c'est des trucs... Enfin, moi, je le vois en consultation. Parfois, c'est rien du tout.
Ouais.
Mais ça fait une énorme différence. Littéralement, le tryptophane, par exemple, ça se trouve amandes, bananes, sardines, pour dire les principaux. Déjà, quand on arrive à régler ce truc-là, on se rend compte qu'il y a, en fait, il y a un impact de fou.
Ouais.
Sur notre état.
Grave. Et ça, je trouve ça fascinant parce que ça serait quoi la réaction la réaction première qu'on pourrait avoir face à une situation de stress en tant qu'entrepreneur? On va dire, c'est la faute du client.
Ouais.
C'est la faute de la situation. Enfin, on va chercher les causes extérieures qui créent qui sont le déclencheur du stress. Et si on n'a pas cette approche plus complexe, fine, holistique de ce qu'on est en train de vivre, on peut pas remonter la chaîne jusqu'à dire « Ah, mais en fait, j'ai pas assez de... » Et moi, ça a été mon cas, tu en as beaucoup parlé parce que je suis végétarien depuis la naissance, de « Bah, il y a peut-être pas assez de protéines dans ce que tu manges. »
Ouais.
Et c'est fou, tu vois, ça. Et c'est... enfin, moi, je voulais appuyer dessus parce que c'est tellement important pour moi dans ce que j'essaye d'apporter aux gens avec qui je bosse et aux freelances et aux gens qui nous écoutent ici et ce qu'on essaie d'apporter dans nos accompagnements qu'en fait, bah, notre humanité, elle est tellement complexe qu'on peut pas résumer un accompagnement business à juste dire « Ah bah, t'es stressé parce que tes clients t'envoient des mails trop. » Bah, en fait, c'est pas que une question de le mail, le client, le machin. C'est une question peut-être de tout ton mode de vie. Et je trouve ça fou, du coup, que, à mon sens, presque partout ailleurs dans l'écosystème entrepreneurial, personne parle de ça. Personne dit aux gens dans une formation business, il faut que t'ailles regarder sur ta santé, il faut que t'ailles regarder ton alimentation. Alors que, c'est tout, quoi.
Ouais.
Si notre santé ne va pas bien, si on est surstressé, évidemment que la stratégie marketing qu'on a appris dans je ne sais quelle formation, on va pas pouvoir l'appliquer, en fait.
Mais c'est ça, et puis ce que je disais tout à l'heure, notre corps, c'est notre meilleur allié. Et c'est tout. Un autre exemple hyper marquant, c'est le magnésium. On est tous carencés en magnésium. Je trouve que le magnésium, c'est vraiment le cliché. C'est un peu en astrologie, Mercure rétrograde. Tout le monde sait ce que c'est, mais on sait pas vraiment ce que c'est, tu vois. On sait juste que c'est la merde. Le magnésium, ça fait depuis qu'on est tout petit qu'on nous en parle, si peut-être nos parents nous ont donné quand on était petit. Et en fait, le magnésium, c'est, moi j'appelle ça un antidépresseur naturel. C'est aussi un décontractant musculaire. C'est hyper important dans la réaction au stress. Et à tel point que physiquement aussi, ça fait quelque chose, dans le sens, si on manque de magnésium, ce qui se passe, c'est que notre réaction physique va être beaucoup plus rapide. Notre système nerveux, il va moins avoir une prise de recul. Et se dire, bon, peut-être que je suis pas obligée de réagir aussi vite sur cette situation, un truc contrariant, un truc qui nous met par exemple en colère, et il y a un truc physique qui se passe, il y a le muscle qui part, tu vois, c'est comme si il y a quelqu'un qui m'énerve de ouf et il y a cette pensée en moi, j'ai envie de lui foutre une grosse claque. Chez certaines personnes, ça peut partir. On peut aussi l'expliquer parce que le magnésium a pas pu faire son taf de
calmer le jeu.
On se calme et on déclenche pas l'action. Le muscle a pas besoin de partir, en fait. Un des premiers signes de carence de magnésium, et je pense qu'on l'a tous et toutes eu, c'est la paupière qui tressaute.
Ah ouais.
C'est ça, en fait. C'est les muscles
corps,
sont. Mais ouais. Ouais, c'est ça. Et puis moi, ça m'est déjà arrivé de faire une grosse cure de magnésium et je finis la boîte. Deux jours après, j'ai la paupière qui tressaute et je me dis c'est quoi cette histoire. Donc le magnésium, et on est carencé très très vite. Deux heures de stress, on n'a plus de stock de magnésium.
Wow.
Donc c'est un peu notre meilleur allié, je trouve.
On trouve dans quoi, en termes d'alimentation, le magnésium?
On en parle beaucoup dans le chocolat. Donc plutôt chocolat noir, pas trop transformé, cru idéalement, etc.
D'où le fait que ça nous fasse autant de bien et qu'il y ait autant de gens qui mangent du chocolat, je pense.
Ouais, il y a carrément un truc comme ça.
Ouais. Cap.
Et sinon, après, c'est dans beaucoup de légumes, beaucoup, c'est un minéral, donc il y en a énormément. Après, le magnésium, il a besoin de cofacteurs, donc c'est-à-dire de, on va dire, d'amis pour être assimilé par le corps.
Okay.
Si on, par exemple, on prenait juste du magnésium brut, vraiment où il n'y a pas d'autres cofacteurs, le corps pourrait pas l'assimiler, on l'éliminerait juste tout seul. Donc c'est pour ça que le magnésium, il doit y avoir de la vitamine B et de la taurine.
Okay.
Et souvent, donc, si vous achetez du magnésium, faut regarder qu'il y ait bien ces deux trucs-là, sinon il sera pas assimilé.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut acheter
Ouais, en pharmacie et qui est en libre. Et c'est un vrai business parce qu'il y a beaucoup beaucoup de magnésium, de marques de magnésium, et beaucoup sont pas très très bien, en fait.
Ouais,
le magnésium.
Ok. Je suis toujours fasciné à chaque fois par le niveau de précision. Enfin, chacune de mes conversations avec toi, je me dis, mais c'est ouf, d'autant bien connaître, tu vois, des trucs comme ça. Alors, le magnésium, pour que notre corps puisse l'assimiler, il lui faut ça, ça et ça, mais il se trouve que la majorité des trucs qu'on trouve sur le marché ne n'offre pas ça. Tu vois, c'est un niveau de connaissance sur le fonctionnement du corps humain, et je me dis, mais pourquoi tout le monde n'a pas ça, quoi.
Ouais.
Et je trouve ça tellement précieux ce que ça apporte quand on a un peu plus cette connaissance de ce qui se passe à l'intérieur de moi.
Je pense qu'on nous infantilise beaucoup par rapport à notre santé. Je pense que je trouve que le principal, en tout cas, je trouve quand on parle de santé, on pense souvent à gestion du poids. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Et le reste, on s'en fout. Tant que je fais attention à mon poids et que et souvent c'est pour éviter de grossir j'ai perdu le fil de ma pensée.
Tu disais sur la santé, le truc qui omnubule tout le monde.
Ouais, c'est la gestion du poids. Et du coup, on pense pas du tout au reste.
Ouais.
On pense pas du tout à ces réactions en chaîne qui fait que quand on manque de protéines ou on est carencé en certains nutriments, en fait on peut aussi être en mauvaise santé.
Oui.
C'est pas parce que
Oui, je peux être extérieurement, physiquement beau, belle, blablabla,
ouais.
Pas être trop
dans les normes
trop
qu'on
dans
attend.
Le poids, quoi.
Ouais, grave. Et être en fait en très mauvaise santé.
Ouais.
Ce que je vois beaucoup en cabinet. Et depuis quelques années, ça m'est arrivé aussi, c'est des personnes qui deviennent végétariens, végétariennes, véganes et véganes, et qui abandonnent juste les produits laitiers,
oui.
Les produits animaux, donc laitiers aussi. Et qui a pas de conscience mise sur
ouais.
Comment j'ai toujours...
Ce que je trouvais dans ces aliments,
voilà.
Par ailleurs.
Voilà. Et c'est un problème parce que... Moi j'ai développé une maladie auto-immune principalement à cause de ça. Quand je suis devenue végétarienne, mon système hormonal s'est effondré. Et encore une fois, le corps est très intelligent, donc il va s'adapter. Mais au bout d'un moment, ça va craquer.
Ouais.
Et d'autant plus quand on est un végétarien, végétarienne stressé, on a encore plus besoin de protéines parce que ça carbure, quoi.
Ouais.
On va utiliser encore plus de nutriments, de minéraux, etc. Donc s'il n'y a pas ce qu'il faut de base, et donc j'ai beaucoup observé des gens qui ont un espèce de brouillard mental, des symptômes qui imitent la dépression jusqu'à arriver peut-être à la dépression, alors qu'au début c'est un manque de ce qu'on appelle la vitamine B12 qui se trouve que dans les produits animaux, et j'insiste sur que les produits animaux parce qu'on entend beaucoup le contraire, ce n'est pas vrai sauf si c'est des produits végétaux qui ont été enrichis en vitamine B12, là oui. Et la vitamine B12, quand on est dans une carence très importante, ça, à la fin, on arrive à des lésions neurologiques.
Mm.
Et ce brouillard mental, ça peut venir de là.
Mm.
Donc pareil, c'est toujours remonter la chaîne.
Ouais, ça parle encore une fois de savoir, en fait.
Mm.
Si on sait pas tout ça, on n'arrive pas à trouver pourquoi est-ce que je vis telle chose. Pourquoi est-ce que le stress pour moi c'est tellement plus intense? Pourquoi est-ce que mon corps il a tellement moins d'endurance que les autres?
Oui, et on a l'impression aussi que certains symptômes n'ont rien à voir avec ce qu'on ressent.
Ouais, alors que. Ouais.
Et alors qu'en fait tous ces symptômes là, c'est justement parce que t'es stressé, par exemple.
Oui, il y a cette phrase que j'avais entendue il y a longtemps mais qui reste avec moi et qui je pense nourrit mon intérêt pour tout ce que tu racontes là et pour. La discipline de la naturopathie, enfin toutes les disciplines qui ont un lien avec la santé et le corps, c'est on est ce qu'on mange, quoi. You are what you eat.
Ouais, à fond. Et je pense qu'on on la connaît tous,
oui,
cette phrase. Mais de vraiment prendre conscience de ce que tu vas mettre à l'intérieur de ton corps va avoir un impact sur tous les organismes. Ça, on l'a pas tous en tête.
Je pense qu'on pourrait continuer les heures, mais si ça te va, je te propose qu'on rentre dans les questions rituelles de fin d'épisode.
Oui.
Et la première, c'est... Et peut-être que tu vas parler de ce qu'on s'est dit là, ou peut-être de toute autre chose, je suis curieux d'ailleurs, mais la première question, c'est... Tu es face à Marie, c'est son premier jour d'indépendance. Je te laisse choisir si c'est quand t'as ouvert ta micro pour la première fois ou ton lancement à plein temps. C'est quoi le conseil que t'as envie de lui donner à cette Marie du passé?
Le premier truc qui me vient, c'est lâche pas. Parce que je pense que j'ai cette tendance facilement à aller vers le pessimisme et me dire bon non vas-y j'ai essayé j'arrête. Et surtout mes premiers mois de cabinet j'avais pas beaucoup de gens, ce qui est normal.
Oui.
En fait. Et moi j'ai décidé que non c'était pas normal. Et il y a eu des moments vraiment difficiles où j'avais envie d'arrêter et vraiment ouais de rien lâcher. Parce que je sais au fond de moi que j'ai raison, quoi. Que je sais que je suis à ma place et que c'est ce chemin-là que je dois prendre.
Comment tu fais pour te reconnecter à ce truc au fond de toi qui sait?
Quand j'imagine reprendre un boulot salarial et en mode un truc un peu intense. Enfin, là, il y a quelques jours, par exemple, je me suis imaginé reprendre mon ancien taf. C'est-à-dire repartir à Paris, vivre à mille à l'heure. Et rien que ça, j'ai eu tellement mal au ventre.
Oh, wow.
Et je me suis dit, bah non, en fait, on va trouver... ça va marcher, du coup. C'est obligé que ça marche. Parce que l'autre, ça va te rendre malade. Donc...
Allons-y.
Ouais.
Ok.
C'est très efficace.
Depuis que t'es à ton compte, ça a été quoi ta plus grande difficulté? Le truc qui t'en a fait baver?
Moi, même. Vraiment de, je pense, ce que je peux me répéter en boucle en me disant tu vas pas y arriver, ça va pas marcher, ou là en ce moment c'est un peu, bah oui regarde t'as essayé plein de trucs et y a rien qui marche donc bah peut-être arrête, et je me raconte que du coup je déçois les personnes autour de moi, que je suis pas assez bien, que je fais pas bien le travail, que je travaille pas assez, et en fait, c'est vraiment... Et voilà, quand j'en parle autour de moi, bah en fait, je trouve des encouragements, des personnes qui me disent que c'est trop bien, qu'ils aiment beaucoup ce que je fais, que ça résonne avec eux. Et en fait, c'est là où je me rends compte, c'est vraiment moi, en fait, qui me raconte toute une histoire. Parce que c'est presque plus facile d'abandonner que de continuer. Ouais.
Comment tu fais ce que j'entends, que c'est, j'ai l'impression que c'est pas terminé dans ce que tu dis.
Ouais, je sens que c'est très présent. Et bah là les derniers jours, comment je les gérais, c'est bah justement d'en parler avec des gens autour de moi qui me disent non mais arrête, c'est trop bien, continue. Et du coup de prendre conscience de ça et de me dire en fait vas-y, sois aussi ton propre support.
Ouais.
Soutiens-toi toi-même. Tu es ton meilleur allié.
Est-ce que t'as des choses qui te viennent ou que t'as prévu de faire sur ce que j'entends dans ce que tu partages, c'est que la difficulté c'est la relation à toi-même et la petite voix négative sur ce que tu fais et que c'est ta relation aux autres qui t'aide à apaiser ça.
Ouais.
Mais j'imagine que ton envie, comme tu le dis là, c'est être une meilleure copine avec moi-même, quoi. T'as quoi en tête pour réussir à faire ça?
Je pense que c'est de me poser et de faire un peu parler toutes les petites parts à l'intérieur qui se chamaillent. Parce que je me rends compte que l'anxiété que je peux ressentir, c'est... Il y a un conflit à l'intérieur, en fait. Et que j'ai besoin de les écouter et de me poser. Et c'est ce que je disais aussi, c'est pour ça aussi que j'ai besoin d'aller lentement. C'est parce que sinon, en fait, j'ai trop d'angoisse et trop de...
Oui.
Et j'ai pas le temps d'assimiler les choses et ces moments de pause aussi et de temps ralenti, bah ça me permet de prendre le temps de me parler et de me dire ça va aller et ouais, et aussi bah je me suis fait accompagner, je continue à me faire accompagner, mais que ce soit au niveau psy ou au niveau du travail, c'est hyper important. Et puis j'ai aussi, enfin je passe des pactes avec des amis en disant bah voilà, c'est ok d'aller demander de l'aide. Bah parce que parfois je vais pas y arriver, quoi, d'être mon propre soutien, parfois c'est pas possible, et bah il y a une personne qui sait que je peux lui envoyer, on a un nom de code, et elle sait que là elle doit me hyper et me faire plein de compliments, et c'est ok, tu vois.
Trop bien. Ouais, accepter que effectivement on a besoin d'un écosystème autour de nous et que
ouais.
Juste individuellement on peut pas tout faire quoi.
Non. Bah surtout dans l'entrepreneuriat où voilà, moi je suis pas rentrée dans l'entrepreneuriat pour ça.
Ouais.
Et du coup, je découvre que j'ai ce caractère où je fais tout toute seule. Et j'aime bien ce côté-là de moi. Et en fait, bah, l'hyper-indépendance, c'est pas...
Ouais.
Ça fonctionne pas trop. On a besoin des autres.
C'est quoi l'objectif après lequel tu cours en ce moment avec ton entreprise?
De la stabilité. C'est vraiment ça qui me manque. Tous les débuts de mois, en fait, je ne sais pas à quoi mon mois va ressembler. Financièrement, en termes de consultation aussi, qui va me contacter ou pas, les nouvelles que j'attends. Et donc à chaque début de mois, c'est beaucoup beaucoup d'angoisse, beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes. Et parfois j'ai l'impression d'arriver, de me dire ah c'est bon, et en fait pas du tout. Donc c'est vraiment trouver de la stabilité, et peut-être que c'est même pas peut-être financièrement, c'est au moins de me dire ce que je lance, c'est bien, ça me convient, je suis alignée, et continuer dans cette direction-là.
De la certitude, du coup.
La certitude, grave.
Ça t'apporterait quoi d'avoir ça?
De
la stabilité, de la certitude.
Ça calmerait ma tête, mon système nerveux. Je pourrais passer en parasympathique beaucoup plus facilement, à mon avis. Et puis, bah, cet espace mental dont on parlait, dont on a vraiment besoin. Et je pense qu'on le vit tous quand on est indépendant, indépendante. Même quand on se dit, bon, bah là, c'est 3 jours de pause, 3 jours de repos, bah, en fait, on fait que penser au taf. Et ça me manque, les vrais jours de pause. Les vrais moments de repos où je culpabilise pas. Et voilà.
Merci beaucoup pour ces réponses. On a un tout dernier rituel sur ce podcast à nourrir qui est... Je vais arrêter de te poser des questions à toi.
Ok.
Et je vais te laisser toi poser une question à toutes les personnes qui nous écoutent. Alors s'il y avait une question que tu avais envie de leur poser pour que des graines soient plantées à la suite de cet épisode, ce serait quoi la question pour nos auditrices?
Je pense c'est à quel niveau vous mettez votre conscience sur votre santé. C'est quoi... Est-ce que tous les jours vous pensez à comment vous vous sentez physiquement, mentalement, votre niveau de stress? Est-ce que vous vous posez la question? Est-ce que vous n'avez pas banalisé certaines douleurs, certains mots MAUX qui vous traversent régulièrement? Et à quel niveau de priorité vous mettez ça?
Donc une petite auto-évaluation de niveau de conscience sur sa santé.
Ouais.
Ok. Trop bien. Si les gens veulent te donner leur réponse, ou découvrir ton travail, ou approfondir toutes les belles choses que tu nous as partagées ici, où est-ce qu'elles peuvent aller pour te retrouver?
Moi, je suis beaucoup sur Instagram. C'est marie.holisticnaturo. Tout attaché. Et j'ai aussi mon site internet, holisticnaturo.com. Et vous avez tous les détails pour me contacter par mail, par DM, tout ce que vous voulez.
Super.
Et je suis ravie de discuter toujours.
Trop bien, je mettrai les liens dans la description.
Trop bien.
Merci Marie.
Merci Thomas.
J'espère que cet épisode t'a plu, t'a inspiré, t'a apporté des clés, bref, t'a donné des belles choses pour avancer dans ta vie et ton aventure entrepreneuriale, et que t'as envie de continuer l'aventure avec nous en écoutant un prochain épisode. Je le répète, on sort un épisode toutes les semaines, et il y a déjà des heures et des heures de contenu que tu peux consommer sur toutes les thématiques, donc n'hésite pas à aller explorer les autres épisodes de ce podcast. Et si ça t'a plu, la meilleure manière de nous soutenir, et ce qui nous ferait le plus plaisir au monde, c'est que tu mettes une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, et que tu laisses un commentaire pour partager ton expérience. C'est ce qui nous aide le plus à répandre le message à d'autres. Sur ce, je te dis à très bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye-bye.